Chapitre 9. Résultat de l'enquête éléphantine.
Il y a eu un appel téléphonique pour vous, monsieur, annonça Georges, le fidèle factotum d'Hercule Poirot.
De Madame Oliver.
Ah oui, et que voulait-elle m'annoncer, Georges?
Elle a demandé s'il serait possible qu'elle vienne vous voir ce soir, monsieur, après dîner.
Ce serait splendide, répondit Poirot.
Splendide!
J'ai passé une journée fatigante. Voir Madame Oliver sera une distraction revigorante. Elle est toujours amusante, en même temps qu'éminemment imprévisible dans les propos qu'elle tient.
Au fait, a-t-elle mentionné des éléphants?
Des éléphants?
Non, monsieur, je ne crois pas.
Ah, dans ce cas, ça pourrait signifier que les éléphants se sont révélés décevants.
Georges décocha un regard passablement interloqué à son maître. Certaines fois, il ne percevait pas tout à fait l'à-propos des remarques du détective.
« Rappelez Madame Oliver, » lança ce dernier, « et dites-lui que je serai enchanté de la recevoir. »
Georges partit mettre cet ordre à exécution et revint pour annoncer que Madame Oliver viendrait aux alentours de 9h15.
« Du café !» décréta Poirot. « Il faudra préparer du café et quelques petits fours. Il me semble bien que j'en ai commandé il y a peu chez Fortnum & Mason. »
« Une quelconque liqueur, monsieur ?»«
Non, je ne pense pas. » « Moi-même, je prendrai un peu de sirop de cassis. »«
Bien, monsieur. »
Madame Oliver arriva très exactement à l'heure dite. Poirot l'accueillit avec un plaisir manifeste.
« Comment allez-vous, très chère madame ?»«
Je suis épuisée, » annonça la romancière. Elle se laissa choir dans le fauteuil que Poirot lui indiquait.
« Complètement épuisée. »«
Ah, qui va à la chasse ?»«
Tiens, je ne me souviens plus de la suite du dicton. »
« Je m'en souviens, moi, » déclara Madame Oliver. « Je l'ai appris quand j'étais enfant. Qui va à la chasse perd sa place. »
D'où il ressort qu'il ne saurait s'appliquer aux recherches que vous avez entreprises.
Je fais allusion à la chasse aux éléphants. À moins que ce n'ait été pour vous qu'une simple figure de style.
« Pas du tout, » enchaîna Madame Oliver. « Je mène une chasse effrénée aux éléphants, de droite, de gauche, dans tous les sens. » La quantité d'essence que j'ai pu consommer, le nombre de trains que j'ai pris, de lettres que j'ai écrites, de télégrammes que j'ai expédiés, vous ne pouvez pas savoir à quel point tout ça est harassant.
Dans ce cas, délassez-vous, prenez un peu de café.
Un bon café noir et fort, oui, c'est ce que je vais faire, exactement ce qu'il me faut.
Avez-vous, si je puis me permettre cette question, obtenu des résultats?
Quantité de résultats, affirma Madame Oliver.
L'ennui, c'est que je ne sais pas s'il y en a d'utile dans le lot.
Vous avez néanmoins appris des faits?
Non. Non, pas vraiment. J'ai appris des détails que les gens m'ont présentés comme des faits, mais pour ma part, je doute fortement que ce soit vraiment.
Des on dit?
Non. Bel et bien ce que j'avais annoncé d'entrée de jeu, des souvenirs. Quantité de gens ont des souvenirs.
L'ennui, c'est que lorsqu'on se remémore ceci ou cela, on ne se le remémore pas toujours correctement, n'est-ce pas?
En effet. Mais chacun de ces souvenirs évoqués n'en demeure pas moins un résultat apporté à votre crédit.
Et vous, qu'avez-vous fait? Demanda Madame Oliver.
Vous vous montrez toujours si impitoyable à mon égard, madame, gémit Poirot.
Vous seriez prête à exiger que j'agisse, que moi aussi je me démène.
Et alors, vous êtes-vous démené?
Je ne me suis pas démené, non, mais j'ai eu quelques entretiens avec d'autres confrères de ma branche.
Voilà qui m'a tout l'air largement plus paisible que ce avec quoi je me suis colleté, commenta Madame Oliver.
Oh, que ce café est bon!
Il est vraiment très fort.
Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fatigué.
Et dans le brouillard.
Allons, allons. Ne perdons pas espoir. Vous n'avez sûrement pas fait chou blanc. Je vous fais confiance. Vous nous rapportez du concret.
J'ai récolté toute une collection d'hypothèses et d'anecdotes, mais je ne sais pas si elles sont véridiques.
Il se pourrait que, sans l'être, elles se révèlent quand même utiles, affirma Poirot.
Ma foi, je comprends ce que vous entendez par là, opina Madame Oliver, et c'est aussi mon avis. Ou plutôt, c'était mon avis quand je me suis mis en quête de ces anecdotes. Mais quand les gens se souviennent d'un événement et le racontent, eh bien souvent,
Ils ne racontent pas au juste ce qui s'est véritablement passé, mais ce qu'eux-mêmes ont cru qu'il se passait.
La version qu'ils en donnent devait pourtant se fonder sur du réel, objecta Poirot.
Je vous ai apporté un genre de liste, annonça Madame Oliver. Inutile que je vous décrive par le menu où je suis allé, ce que j'ai dit ou pourquoi je l'ai dit. Je suis sciemment parti en quête de, disons, de renseignements qu'il ne serait sans doute plus possible d'obtenir de qui que ce soit dans le pays à l'heure actuelle. Cependant, tout ce que j'ai glané émane de personnes qui connaissaient les Ravenscroft, même si ce n'était que de loin.
Des informations de l'étranger, vous voulez dire?
Bon nombre de ces informateurs avaient en effet vécu à l'étranger. Pour ce qui est des autres, ils avaient vaguement connu les Ravenscroft en Angleterre, où c'étaient des gens dont les tantes, cousins ou amis les connaissaient de longue date.
Et tous ceux dont vous avez noté les noms avaient quelque chose à raconter, quelques souvenirs ayant trait au drame ou aux gens impliqués.
C'est à peu près ça, répondit Madame Oliver. Je vais donc vous exposer en gros mon tableau de chasse, d'accord?
Oui, prenez un petit four.
Merci, fit Madame Oliver.
Elle prit un petit gâteau d'allure particulièrement onctueuse et écœurante et mordit dedans à belles dents.
Je me dis toujours que les sucreries, commenta-t-elle, ça donne vraiment beaucoup d'énergie. Bon, alors, j'ai récolté les hypothèses que voilà, qui m'ont généralement été confiées après une introduction du genre « Mais oui, bien sûr, comme c'était triste toute cette histoire, évidemment tout le monde sait ce qui s'est vraiment passé, ça ne fait pas de doute », ce genre de préambule. Je vois. Ces gens pensaient savoir ce qui s'est passé. Pourtant, en réalité, je n'ai obtenu aucune explication vraiment valable. Il ne s'est toujours agi que d'anecdotes que quelqu'un leur avait rapportées, ou qu'ils tenaient de la bouche d'amis, domestiques ou connaissances, vous voyez le genre. Bien entendu, les hypothèses relevaient toutes du même domaine, comme on pouvait s'y attendre. Le général Ravenscroft rédigeait ses mémoires concernant son service en Malaisie, les dictait à une jeune femme lui tenant lieu de secrétaire, qui dactylographiait le tout et le secondait. Or, il s'agissait d'une jolie jeune femme, et il y avait certainement du vilain là-dessous. Le résultat étant, ma foi, il semble y avoir eu deux courants de pensée. L'un, selon lequel le général avait assassiné sa femme pour pouvoir épouser sa secrétaire, mais qu'aussitôt après l'avoir abattue, l'horreur de son geste l'avait poussé à se supprimer.
« Tout juste, commenta Poirot, une explication romanesque.
D'après l'autre hypothèse, il y avait eu un précepteur qui était venu donner des cours au fils de la maison, lequel fils avait été malade et absent pendant 6 mois et quelques de l'école privée qu'il fréquentait. Un jeune et beau précepteur.
Ah, je vois.
Et la femme du général s'était éprise du jeune homme. Peut-être avait-elle même eu une aventure avec lui ?
C'est précisément l'hypothèse, confirma Madame Oliver. Mais pas la moindre preuve d'aucune sorte. Là encore, rien que des suppositions romanesques.
Et à partir de là ?
Et à partir de là, on avait supposé que le général avait sans doute assassiné sa femme dans un élan de jalousie, puis bourrelé de remords, se serait supprimé.
Il existe une autre version selon laquelle le général aurait eu une liaison que sa femme aurait découverte, à la suite de quoi elle l'aurait abattue avant de retourner son arme contre elle. Tout ça connaît chaque fois quelques variantes, mais en réalité, personne ne sait rien. Je veux dire par là qu'il ne s'agit guère chaque fois que d'une version tout au plus plausible. Enfin bon, c'est vrai, le général aurait pu entretenir une liaison avec une jeune fille, quantité de jeunes filles, ou tout simplement une autre femme mariée, ou ça aurait pu être Lady Ravenscroft qui entretienne une liaison avec quelqu'un. Le quelqu'un en question varie selon chacune des versions qu'on m'a soumises. On ne savait rien de précis à son sujet et on n'avait aucune preuve de son existence. Il s'agissait simplement de la rumeur qui courait voilà 12 ou 13 ans et que les gens ont un peu oublié aujourd'hui. Ils s'en souviennent pourtant assez pour citer quelques noms et relater sans trop se tromper ce qui s'est passé. Il y avait un jardinier de réputation douteuse qui vivait dans la place, une charmante vieille cuisinière gouvernante, presque aveugle et quasi sourde, mais personne ne semble penser qu'elle est trempée d'une quelconque manière dans cette affaire. Et ainsi de suite. J'ai noté tous les noms et toutes les hypothèses. Certains des noms sont erronés, certains sont les bons. Tout ça est très compliqué. La femme du général avait été malade pendant une brève période et je crus comprendre. Je crois qu'elle avait contracté une mauvaise fièvre.
Elle avait dû perdre beaucoup de cheveux puisqu'elle avait acheté des perruques. On n'avait trouvé pas moins de 4 perruques neuves dans ses effets personnels.
« Oui, confirma Poirot, j'ai entendu dire cela, moi aussi. »«
Qui vous l'a dit ?»«
Un mien ami qui travaille dans la police. Il a réexaminé les comptes rendus de l'enquête préliminaire et les divers effets de la maison.
4 perruques. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, madame. Ne trouvez-vous pas que 4 perruques, cela semble un peu excessif ?»«
Ma foi, si, en vérité, » répondit madame Oliver.
« J'avais une tante qui portait perruques. Elle en possédait une de rechange qu'elle arborait quand elle envoyait l'autre au recoiffage. Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui en possédât 4. »
Madame Oliver tira de son sac un petit calepin qu'elle feuilleta à la recherche de certains passages.
« Madame Carstairs, 77 ans et un tantinet gâteuse. Je cite ses propos.
« Je me souviens très bien des Ravenscroft.
Oui, oui, un très gentil couple. C'est très triste, je trouve.
Oui, c'était un cancer. »
Je lui ai demandé qui des deux époux avait un cancer, poursuivit Madame Oliver, mais Madame Carstairs ne se souvenait plus très bien de ce détail. Il lui semblait, m'a-t-elle dit, que Lady Ravenscroft allait à Londres pour consulter un médecin et qu'elle s'était fait opérer, puis qu'à son retour elle était très mal en point et que son mari se faisait beaucoup de soucis pour elle.
C'était donc lui, bien sûr, qui l'avait tué avant de se suicider.
Était-ce la version toute personnelle de cette dame, ou était-elle au courant de détails précis ?
Je crois qu'il s'agissait tout bonnement, là encore, d'une hypothèse.
Pour autant que j'ai pu le constater ou l'entendre au cours de mes investigations, reprit Madame Oliver en insistant sur le dernier mot, quand les gens apprennent qu'une de leurs relations, qu'ils connaissent assez peu, tombe subitement malade ou consulte des médecins, ils ont conclu invariablement qu'il s'agit d'un cancer. De même que les intéressés eux-mêmes, je crois.
Quelqu'un d'autre, je n'arrive pas à relire le nom de cette femme, je l'ai d'ailleurs oublié, il me semble que ça commençait par un T.
Cette personne, donc, m'a dit que c'était le général qui souffrait d'un cancer, qu'il était très malheureux, de même que sa femme, qu'ils en avaient discuté tous les deux et n'arrivaient pas à se faire à cette idée, alors qu'ils avaient décidé de se suicider.
Triste et romanesque, commenta Poirot.
Oui, mais pas très véridique, d'après moi.
Enchaîna Madame Oliver.
C'est troublant, n'est-ce pas? Que les gens se souviennent de tant de détails, alors qu'il semble qu'ils aient inventé ça eux-mêmes en grande partie.
Ils ont inventé la solution à une situation qu'ils connaissaient un peu, expliqua Poirot. C'est-à-dire qu'ils savaient que quelqu'un allait à Londres pour, disons, consulter un médecin, ou que quelqu'un avait passé 2 ou 3 mois à l'hôpital. Voilà ce qu'ils savaient vraiment.
Oui, renchérit Madame Oliver. Et ensuite, quand ils en parlent longtemps après, ils exposent la solution qu'ils ont eux-mêmes inventée. Ça ne nous aide pas énormément, si ?
Mais si, assura Poirot.
Vous avez tout à fait raison, vous savez, à propos de ce que vous me disiez.
Des éléphants ? Releva Madame Oliver d'un ton plutôt dubitatif.
Des éléphants, oui, confirma Poirot.
Il importe de prendre connaissance de certains événements que les gens gardent en mémoire sans même vraiment savoir quels étaient ces événements. Pourquoi ils se sont produits et ce qui les a provoqués.
Il se pourrait très bien, toutefois, que les gens sachent quelque chose que nous ignorons et que nous n'avons aucun moyen d'apprendre.
Ainsi, certains souvenirs ont donné lieu à des hypothèses.
Hypothèses d'infidélité, de maladie, de pacte de suicide, de jalousie, tout ce qu'on vous a exposé.
On pourrait mener des recherches plus approfondies sur certains détails, pour peu qu'ils semblent plausibles à un quelconque égard.
Les gens aiment parler du passé, affirma Madame Oliver. Ils aiment vraiment mieux parler du passé que de ce qui arrive aujourd'hui ou de ce qui est arrivé l'année dernière. Ça les aide à se remémorer. Ils commencent par parler d'un tas de gens pour lesquels on n'éprouve bien évidemment aucune curiosité, mais on ne tarde pas à apprendre ensuite ce que ces gens savaient au sujet de quelqu'un d'autre, qu'eux-mêmes ne connaissaient pas, mais dont ils avaient entendu parler. Vous comprenez? Du coup, le général et la Lady Ravenscroft dont on entend parler se trouvent au deuxième degré, en quelque sorte.
Comme dans les relations de famille, reprit-elle. Vous savez, cousin germain au premier degré, cousin au deuxième degré, et tout ce qui s'ensuit.
Cela dit, je ne pense pas que mes recherches soient d'une grande aide.
Il ne faut pas dire ça, protesta Poirot. Je suis quasi certain que dans votre charmant petit calepin lit de vin, vous trouverez quelque chose qui concerne ce drame du passé.
Je puis vous affirmer, d'après mes propres recherches au sein des comptes rendus officiels se rapportant à cette affaire, que le mystère de ces deux décès reste entier, du point de vue de la police, s'entend. C'était un couple uni, au sujet de qui ne circulait guère de commérages ou de rumeurs d'adultère, et l'on a eu vent après coup d'aucune maladie susceptible d'avoir poussé l'un à se supprimer ou à supprimer l'autre. Cela dit, ce que je vous rapporte là concerne uniquement l'époque précédant immédiatement le drame. Or, leur vie commune n'a pas commencé là. Il y a eu la Malaisie et toutes leurs années passées hors d'Angleterre. Je comprends ce que vous voulez dire, acquiesça Madame Oliver. J'ai d'ailleurs récolté des renseignements là-dessus auprès d'une ancienne nounou. Une ancienne nounou aujourd'hui âgée de... Je ne sais pas, elle pourrait avoir 100 ans, mais je crois qu'elle n'en a que 80 et quelques. J'ai des souvenirs d'elle qui remontent à mon enfance. Elle me racontait des histoires sur les expatriés aux Indes, en Égypte, dans le royaume du Siam, à Hong Kong et tout le reste. Des renseignements qui vous ont intéressé ? Oui, répondit Madame Oliver. Elle a évoqué un drame assez obscur. Elle n'avait pas l'air très sûre de ce qui s'était passé. Je ne pense pas vraiment que ça ait le moindre rapport avec les Ravenscroft, peut-être plutôt avec d'autres gens de là-bas, car elle ne se souvient plus très bien des noms et des détails. Il était question d'un problème de folie au sein d'une famille, la belle-sœur de quelqu'un. Soit la sœur du général, je ne sais plus qui, soit celle de madame, je ne sais plus qui. Une femme ayant passé des années dans un établissement psychiatrique. J'ai cru comprendre qu'elle avait tué ses propres enfants, ou tenté de les tuer des années auparavant, puis qu'on l'avait supposée guérie, ou mise en liberté conditionnelle, quelque chose comme ça, après quoi elle s'était rendue en Égypte, ou en Malaisie, ou je ne sais où. Elle s'y était rendue pour séjourner chez les gens en question. Et là, il s'était, semble-t-il, produit un autre drame, concernant aussi des enfants, je crois. Il s'agissait en tout cas d'une affaire qui avait été étouffée. Cela dit, je me suis demandé s'il n'y avait pas une histoire de démence dans la famille Ravenscroft, soit de son côté à elle, soit du côté du général. Je ne pense pas qu'il ait pu s'agir nécessairement de quelqu'un d'aussi proche qu'une sœur. Ça pouvait être une cousine. En tout cas, voilà, ça m'a semblé une voie possible à exploiter pour mon enquête. Oui, reconnut bien volontiers Poirot, la possibilité d'une plaie longtemps cachée et qui aurait soudain refait surface n'est jamais à exclure. Comme l'a si bien dit quelqu'un il y a peu, au loin s'étend l'ombre portée des péchés de jadis. Il ne m'a semblé ni certain, ni même probable, que la vieille nounou Matcham se souvienne vraiment du fait que ces gens aient pu être ceux qu'elle se figurait, précisa Madame Oliver. Cela dit, ça aurait pu cadrer avec ce que m'a dit cette affreuse bonne femme au déjeuner littéraire, quand elle voulait me faire demander à ma filleule si c'était sa mère qui avait tué son père ou le contraire. Encore une fois, comment cette fille aurait-elle pu le savoir? Ma foi, rien au fond n'interdisait qu'elle l'ait su. Non pas qu'elle l'ait su à l'époque, j'entends, on lui aura certainement caché la vérité pour l'épargner, mais peut-être aurait-elle pu glaner après coup, ça et là, des bribes de détails qui lui auraient permis d'y voir plus clair dans l'existence de ses parents, et de déterminer qui était susceptible d'avoir tué qui, quand bien même elle n'en parlerait probablement jamais, n'y ferait jamais allusion, ni n'en dirait rien à quiconque. Or, vous prétendez que cette femme, cette madame... Oui, son nom m'échappe pour le moment, Madame Burton je ne sais quoi, un nom comme ça. Elle a évoqué le désir qu'avait son fils d'épouser ma filleule. Et au fond, j'admets qu'on puisse souhaiter savoir, le cas échéant, s'il ne se trouvait pas par hasard des criminels, ou à tout le moins des antécédents de dérangement mental dans la famille de la mère ou du père de sa future bru. Cette femme pensait sans doute que si ça avait été la mère qui avait tué le père, il serait très imprudent de la part de son fils d'épouser sa promise. Alors que si ça avait été le père qui avait tué la mère, elle y verrait probablement moins d'objections, suggéra Madame Oliver. Vous voulez dire qu'elle penserait que cet atavisme pourrait ne courir que dans la branche féminine? Ma foi, cette créature ne m'a pas paru avoir la science infuse, ni être très futée. De l'autorité, ça oui, admit Madame Oliver, s'imaginant avoir tous les droits, alors que c'est loin d'être le cas. On m'a également soumis un autre éclairage du drame, enchaîna assez abruptement la romancière. La même chose, mais de raccroc, si vous voyez ce que je veux dire, mais vous le voyez sûrement. Quelqu'un m'a glissé dans le tuyau de l'oreille, des Ravenscroft. Ce n'était pas ce couple qui avait adopté un enfant? Tout était, paraît-il, réglé, tout s'était passé à merveille, ils étaient fous de joie, car un de leurs enfants était mort en Malaisie, je crois. Et puis voilà que la véritable mère a voulu le reprendre, si bien qu'il y a eu un procès, ou une procédure de ce genre. Toujours est-il que le tribunal leur confirma la garde de l'enfant. Mais il semblerait que la mère tenta du coup de le récupérer en le kidnappant ou Dieu sait quoi. Sombre affaire, qu'est-ce que vous en dites?
Que votre compte-rendu renferme des pistes plus simples, objecta Poirot, et que pour ma part, je préfère.
Telles que?
Les perruques.
Les quatre perruques.
Ma foi, reprit Madame Oliver, je m'étais bien dit que ce détail vous intéresserait, encore que je ne comprenne absolument pas pourquoi.
Pour moi, ça ne signifie rien.
L'hypothèse précédemment énoncée ne récoltait pas non plus mes suffrages, comme on dit élégamment.
Elle relevait de la folie ordinaire. Il y a des gens qui se retrouvent dans des asiles d'aliénés parce qu'ils ont tué leurs enfants ou l'enfant de quelqu'un d'autre au nom d'une raison complètement loufoque, dénuée de tout fondement. On a parlé d'une folle. Je ne vois pas ce qui, dans cet ordre d'idées, aurait pu pousser le général et Lady Ravenscroft à se supprimer.
À moins précisément que l'un d'eux n'ait été impliqué dans la disparition d'enfants telle que vous la mentionnez, suggéra Poirot.
Vous voulez dire que le général aurait pu tuer quelqu'un?
Le fils?
Un enfant illégitime peut-être de sa femme ou le sien propre?
Non, je crois que là nous sombrons un peu trop allègrement dans le mélodrame.
D'ailleurs, si vous y tenez, ça aurait pu être elle qui aurait tué l'enfant de son mari ou le sien propre.
Tout ceci étant dit, enchaîna Poirot, les gens ressemblent généralement à l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes.
C'est-à-dire? Les Ravenscroft semblaient former un couple uni, un couple vivant en bonne intelligence, sans différends ni querelles. Ils ne paraissaient pas avoir connu d'ennuis médicaux sérieux. Pas de cancer, pas de leucémie ni autre maladie grave. Et à l'exception d'une opération probablement bénigne envisagée par l'un des deux après consultation d'un spécialiste à Londres, rien n'indique un avenir de déchéance physique qu'il n'aurait pu affronter. Et cependant, il semble qu'on ne récolte encore que du possible, mais rien, en revanche, qui soit probable. Même s'il y a eu quelqu'un d'autre dans la maison, quelqu'un d'autre à ce moment-là, la police, mes amis, j'entends, qui ont suivi l'enquête à l'époque, affirment que rien de ce qui a été dit ne cadrait vraiment avec autre chose que les seuls événements. Pour on ne sait quelle raison, ces deux-là n'ont tout d'un coup plus souhaité continuer à vivre. Pourquoi?
Pendant la guerre, la deuxième guerre, veux-je dire, glissa Madame Oliver, j'ai connu un couple qui croyait que les Allemands allaient débarquer en Angleterre, et ils avaient décidé, le cas échéant, de se supprimer. Je leur ai dit que je trouvais ça complètement idiot. Mais eux estimaient qu'ils ne pourraient pas continuer à vivre dans ces circonstances. Je persiste à trouver ça idiot. Il faut avoir le courage d'affronter les pires situations. Bon sang de bonsoir, ce n'est pas en mourant qu'on règle ses problèmes ni qu'on rend service à son prochain.
Tiens, mais je me demande...
Oui, que vous demandez-vous?
Eh bien, en prononçant ces mots, je viens soudain de me demander si la mort du général et de Lady Ravenscroft n'avait après tout pas rendu service à quelqu'un.
Vous voulez dire à quelqu'un qui aurait pu hériter d'eux?
En quelque sorte. Encore que ce ne soit pas à l'argent que je pense, il aurait pu s'agir de quelqu'un à qui cela aurait donné de meilleures chances de s'en sortir dans l'existence. Qui sait s'il n'y avait pas, dans la vie des Ravenscroft, un secret inavouable dont ils ne voulaient pas que leurs deux enfants puissent un jour découvrir toute l'horreur.
L'ennui avec vous, soupira Poirot, c'est que vous pensez trop souvent à des choses qui auraient pu se passer, qui auraient pu être. Certes, vous me suggérez des idées plausibles, mais si seulement elles pouvaient en plus être probables.
Pourquoi?
Pourquoi était-il nécessaire que ces deux-là meurent?
Pourquoi ceci? Pourquoi cela?
S'il faut en croire les apparences, il n'était pas en proie à l'affliction, à la maladie, et n'était pas profondément malheureux. Alors pourquoi, au soir d'une belle journée, sont-ils partis faire une promenade sur la falaise en emmenant le chien?
Que vient faire le chien là-dedans? Coupa Madame Oliver.
Ma foi, voilà un petit moment que je me pose la question. Cet animal, l'ont-ils emmené ou les a-t-ils suivis? Où se situe le chien? Que vient-il faire dans tout cela?
Je suppose qu'il se situe au même plan que les perruques, grinça Madame Oliver. Encore un détail qu'on n'arrive pas à expliquer et qui n'a pas l'air significatif. Un de mes éléphants m'a dit que le chien adorait Lady Ravenscroft, et un autre m'a dit que le même chien l'avait mordu. On en revient toujours au même point, constata Poirot. Il faut qu'on en sache plus. Il faut qu'on en apprenne davantage sur les protagonistes du drame. Or, comment arriver à connaître intimement des gens quand un gouffre d'années nous en sépare? Ma foi, vous y êtes parvenu à une ou deux reprises au cours de votre carrière, non? Lança Madame Oliver. Vous savez, cette histoire de peintre qui avait été abattu par balle ou empoisonné, je ne me souviens plus bien, ça se passait au bord de la mer, sur un genre de fortification. Vous ne connaissiez aucune des personnes concernées, mais ça ne vous avait pas pour autant empêché de découvrir l'auteur du crime. Vous faites allusion à l'affaire des cinq petits cochons. Je n'en connaissais en effet aucune, mais j'en avais appris long sur leur compte de la bouche de leurs proches. Ma foi, c'est ce que je me tue à essayer de faire, expliqua Madame Oliver, mais je n'arrive pas à remonter suffisamment en arrière. Je ne trouve personne qui ait été réellement impliqué, qui détienne réellement la vérité. Ne croyez-vous pas que, tout bien considéré, nous ferions vraiment mieux de renoncer? J'estime que ce serait en effet fort sage, acquiesça Poirot. Mais vient un moment dans la vie où l'on n'a plus envie d'être sage, où l'on a au contraire envie d'en savoir plus, quoi qu'il puisse en coûter. Je porte désormais un intérêt certain à ce couple de gens charmants et à leurs deux beaux enfants. Car ce sont de beaux enfants, j'imagine. Je ne connais pas le garçon, répondit Madame Oliver. Il ne me semble pas l'avoir jamais rencontré. En revanche, éprouvez-vous le besoin de voir ma filleule? Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Oui, je crois que j'aimerais avoir une entrevue avec elle. Peut-être n'en aura-t-elle pas envie, mais nous pourrions provoquer une rencontre. M'est avis que cela pourrait être intéressant. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que j'aimerais voir. « Ah bon? Qui donc? La femme du déjeuner littéraire, la femme autoritaire, votre amie aux allures de gendarme. »« Ce n'est pas du tout mon amie, » protesta Madame Oliver. « Elle m'a simplement mis le grappin dessus pour essayer de me tirer les vers du nez, un point c'est tout. »« Peut-être pourriez-vous relancer cette fréquentation ?»« Oh oui, sans difficulté aucune. Je crois qu'elle sauterait sans doute sur l'occasion. »« J'aimerais la voir. J'aimerais comprendre pourquoi elle tient tant à une certitude. » En effet, ça pourrait être utile, j'imagine. En tout cas, soupira Madame Oliver, je serai contente d'oublier un peu les éléphants. Nounou, vous savez la vieille Nounou dont je vous ai parlé, a mentionné elle aussi les éléphants, le fait qu'ils n'oublient jamais. Ce genre de phrase idiote commence à m'obséder. Ma foi, c'est à vous maintenant de chercher de nouveaux éléphants, c'est votre tour. Et vous? Peut-être pourrais-je rechercher les cygnes. Seigneur Dieu, que viennent faire les cygnes là-dedans? Il s'agit seulement d'un souvenir que Nounou m'a remis en mémoire, celui de petits garçons avec qui je jouais. L'un d'eux m'appelait Madame Éléphant et l'autre Madame Cygne. Quand j'étais Madame Cygne, je faisais semblant de nager par terre. Quand j'étais Madame Éléphant, il montait sur mon dos. Mais il n'est pas précisément question de cygne dans l'affaire qui nous occupe. Encore heureux, manqua s'étrangler Poirot. Les éléphants me suffisent amplement.